Donc, la première séance dont j'ai été responsable, l'objectif était la question des présomptions, d'où nous partions et quelle était l'idée qui pourrait être discutée comme pas pour toute la journée. Et cette présomption a été expliquée de la suivante manière, les co-implications entre corps et ambiance. Et là, nous avons parlé sur les relations entre corps et ambiance, ambiance comme étant une possibilité de comprendre cette relation. Et la première présentation a été celle de Fabienne, où elle nous a parlé que cette co-implication serait une impossibilité de séparation entre ces deux termes, entre ces deux mots, entre corps et espace. Et puis ensuite, avec Fabienne, qui s'est répétée entre ses collègues, l'impossibilité de séparer théorie et pratique. Ce que nous avons discuté, cette co-implication, cette impossibilité de séparation entre corps et espace, entre théorie et pratique, partant du point commun que ces deux discours étaient justement le partage de l'expérience qui pourrait être le pont pour ces questions et surtout la question de l'expérience. Et à partir de ce moment, et que nous avons ensuite répété, la question de la production du commun à partir et à travers des différences et aussi à travers le conflit et aussi des expériences. Bon, c'est la synthèse de la première séance et Fabienne, qui a fait la modération de la seconde séance, va nous en parler. La seconde séance s'agissait du problème de la pacification des corps et des espaces urbains. Et cette question de la pacification des corps et des espaces urbains a été traitée de façon différente par les deux intervenantes. Mais néanmoins, les deux ont fait des approches différentes de ce même problème pour montrer les nouvelles solutions pour ce problème, et chacune ayant une approche différente et pour arriver à une même conclusion d'une certaine façon. Margaret se souciait et revendiquait notre souci sur la question de l'historicité des concepts et vocabulaire, et Rachel qui a reconnu l'importance et le rôle des contextes où elle va appliquer sa recherche comme un élément qui va modifier la recherche. Et c'est ce qui s'est passé avec sa recherche à elle. Elle a fait une présentation très emphatique sur la rigueur méthodologique des protocoles qui ont été employés dans la recherche sur la question de l'aseptisation, l'assainissement des espaces publics. Et ensuite, si nous voyons l'application de ces méthodes et protocoles dans cet endroit qui a exigé un changement des protocoles sur cette question de l'aseptisation des villes. Et je crois que nous pourrions synthétiser ces deux discours, que chacun approchant le problème d'une façon différente, l'une à travers l'historicité et l'autre parlant de l'environnement, du contexte, du cadre, peuvent voir comme être reconnus comme une même compréhension des cadres, soient-ils historiques, sociaux, culturels, des cadres comme étant un élément d'instauration de cohérence. Cohérences différentes qui vont s'instaurer dans des endroits différents selon les procédures que l'on adopte. Merci, Hazan, s'il te plaît, qui a était la modératrice de la troisième séance. Cette séance s'appelait « Le quotidien comme créateur des micro-résistances urbaines ». Et Virginie nous a parlé de l'expérience du quartier Goutte d'Or. Et nous a dit que ce quartier était composé par plusieurs ethnies d'immigrés, un espace poreux où plusieurs interactions sociales agissent, mais cet espace souffre déjà il y a 30 ans un processus de réurbanisation. Et il est évident que une possibilité de dialogue est possible. Et elle en parlait aussi qu'il y a une force sociale qui indique certaines conquêtes de la part de la démocratie. Et Luis Antonio Batista a parlé d'un concept comme construction de paradoxes et de corps polyphoniques, a montré le quotidien comme un interpellateur de concepts cristallisés et transformateurs de notre façon d'exister. Et c'est à partir de l'expérience du corps nocturne et de sa capacité de nous poser des questions sur qu'est-ce que nous faisons sur nos vies, il a montré la fatigue, le manque d'oxygène, l'épuisement comme étant le principal danger du monde fasciste contemporain qu'il appelait de ville siégée. Et maintenant, Margaret, de la dernière séance, je pense que les présents étaient présents justement pendant cette dernière séance. Je serai très brève. Et je voulais seulement vous parler, en fait c'était la possibilité et donc sur la puissance de l'art et de l'architecture de déstabiliser le quotidien ou l'espace public. Et je pense que le grand défi est justement de penser se faire en commun par rapport à ce partage dans ses limites. C'est comme Hélène qui nous a posé une question très intéressante. Le partage de ces ambiances et ses difficultés. Car il me semble que par rapport à Merleau-Ponty ou à Tsumi, ou par exemple, comme elle a montré l'œuvre de Tsumi dans le parc de la Villette, ce qui reste comme interrogation est si la puissance organisatrice des endroits de sociabilité et l'architecture aussi, la puissance et la puissance des corps. C'est un des sujets que j'ai gardé. Et ce que je voudrais aussi poser comme problème de cet après-midi, pour que quand on pense à un prochain colloque, est la question dans le silence des dimensions d'essence. Justement, l'importance de la vision, c'est ce qui m'a impressionné, le besoin, par exemple, de notre collègue Virginie de nous montrer, enfin, un PowerPoint. Et c'est ce qui m'a attiré l'attention aussi dans le film de Anne, la question de ces corps qui veulent être filmés, qui veulent être vus. Et c'est presque cynique parce qu'on ignore en même temps, la caméra. Donc ils se montrent comme spectacle et même vont avoir peu de rapport entre eux. Et nous-mêmes, nous étions face à un appareil photographique dans une chaleur de 42 degrés. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que nous ne nous envoyons pas les images les uns aux autres? Pourquoi la tyrannie de l'image? Donc, il nous faut penser un peu à ce corps sensible. Bon, c'est là. Merci, Margaret. Maintenant, Nicolas aura la parole.